Bienvenue au Polsécur, épisode plus technique. Je suis avec Alexis. Est-ce que ça va? Ça va bien?
Oui, toi?
Très bien aussi. Aujourd'hui, tu vas nous entretenir de un groupe de méchants.
Un groupe de méchants.
TA-444, qui est un groupe nord-coréen, justement, qui existe déjà depuis un certain temps, qui a fait certains coups très médiatisés. Je vais te laisser en parler davantage. Et justement, qui continue à être vivant et qui en continue encore à faire des choses jusqu'à nos jours. Fait que je vais te laisser commencer.
Ouais, fait que TA-444, c'est le nom du groupe que Proofpoint a donné à un groupe d'attaquants qui est attribué directement au gouvernement nord-coréen. Cette attribution-là, c'est pas moi ou c'est pas l'industrie privée qui le fait, c'est carrément le département de la justice américaine là, qui a fait le lien. Il y a des noms, il y a des faces derrière ce groupe-là. Il est aussi connu sous les noms de APT-38, Blue Norov, Black Alicanto, etc., etc. Il doit avoir comme 5-6 alias. Peu importe, c'est tout le même groupe dont on parle. Puis c'est un groupe que moi je trouve vraiment vraiment intéressant. Pour mon équipe et moi, on traque des groupes d'APT à journée longue. Puis ce groupe-là nord-coréen, il a comme particularité qu'il fait pas de cyberespionnage, il fait pas de vol de propriété intellectuelle. Son seul focus, c'est voler de l'argent ou de la valeur pour le régime nord-coréen. C'est un peu une espèce d'exception parce que d'habitude, la grande majorité des groupes d'APT qui font des attaques ciblées, là, ils essaient de trouver de l'information, pas de l'argent. Donc, ça on met la baseline, là, TA-444, ils sont après l'argent, puis ils sont derrière un des gros coups, un des premiers gros vols qui a été médiatisé en 2016. Je ne sais pas si tu te souviens ou si quelqu'un se souvient de cet événement-là. La Banque centrale du Bangladesh a été visée par une attaque. Et puis, je te raconte l'histoire parce que je trouve ça fascinant, puis ça montre à quel point ce groupe-là a évolué puis continue de faire son travail, là. Ils ont attaqué la banque du Bangladesh en obtenant les credentials, donc le login, le mot de passe d'un responsable de la banque qui avait accès à la console de transfert de fonds internationaux sur la plateforme SWIFT. Et ils ont donc pris le contrôle du terminal puis ils ont commencé à faire des transferts de fonds. Voir si ça marchait, puisqu'ils ne connaissaient pas nécessairement s'il y a des limitations au niveau des montants, des destinations. Fait qu'ils ont fait, ils ont fait 4 premiers transferts qui ont fonctionné vers des comptes qui étaient sous leur contrôle à l'étranger. Donc, ils ont réussi à voler un maigre 80 millions de dollars de cette façon-là.
J'ai bien ça, un maigre.
Ouais.
Mais ils ont quand même réussi. C'est quand même intéressant d'avoir testé parce que justement, dans ce contexte-là, ils ont été très prudents, ils ont mesuré, ils ont fait du recon un peu. Là.
Ouais. Exactement. Puis ils ont dû se douter qu'ils n'allaient pas avoir accès à un accès éternel sur ce terminal-là. Fait qu'une fois qu'ils ont fait leur test, puis ça a fonctionné, ils sont allés pour la totale et ils ont programmé d'autres virements qui totalisaient 1 milliard de dollars. OK? Et le premier de ces virements-là, dans la banque destinataire, ils ont fait une coquille. Donc, au lieu de... Il y avait le mot « foundation » dans le nom, là, du propriétaire du compte qui allait recevoir les fonds. Au lieu de marquer « foundation », il a marqué « fandation ». Et ça a fait que la banque qui devait recevoir les fonds et traiter le transfert, a fait « oh, ça marche pas, on va appeler la banque, voir s'il y a une coquille, s'ils veulent corriger ça ». Et c'est là que toute la séquence de transfert qui allait avoir lieu dans les heures qui allaient suivre a été découverte. Donc, ils ont failli voler 1 milliard de dollars à ils ont échoué à cause d'une coquille. C'est vraiment fantastique.
Oui, c'est juste un événement très banal. Et là, ça met en lumière l'importance des contrôles humains sur ce genre de choses-là, parce que là, c'est un contrôle humain qui a réussi à intercepter, qui a fait échouer l'ensemble de la manœuvre. Mais justement, tout ça est très important. Puis d'ailleurs, c'est faire une petite analogie, la fraude du président est un peu dans la même lignée. Donc, justement, l'espèce de contrôle humain demeure important pour attraper ce genre de choses-là. Mais c'est le all-in 1 milliard, c'est quand même... Wow!
Si ça avait marché, c'est vraiment un cas de, tu sais, on essaie le tout pour le tout. Si ça marche, super. Sinon, ben, on aurait eu notre petit 80 millions. Fait que ça fait quoi? C'est en 2016. Ça fait quoi? 7 ans de ça. Le groupe n'a pas arrêté. Puis, il continue à faire des coups fumants. Juste l'an dernier, en 2002, ils sont suspectés d'avoir volé de la crypto à Ronin Network pour une valeur de plus de 500 millions de dollars US. Fait que tu sais, c'est des gros sous, hein. C'est vraiment des gros sous. Et ils ciblent, évidemment, leur cible constante, là, ils vont beaucoup, beaucoup par du courriel d'hameçonnage, là. Ils vont cibler tout ce qu'il y a de l'argent. Les banques, la fintech, toutes les nouvelles entreprises, toutes les organisations qui manœuvrent la crypto-monnaie, c'est leur cible de choix. Donc, c'est pour ça, chez Proofpoint, mon équipe, on traque les activités de ce groupe-là avec attention parce que, entre autres, ben, on a des clients dans ces domaines-là. Puis aussi, ils utilisent le courriel de façon très, très agressive. Ils vont envoyer du nouveau courriel d'hameçonnage, quand même très bien fait. Ils ont de l'habitude de ça. Ils vont déployer des logiciels malveillants pour prendre le contrôle des postes de travail. Puis ensuite, ben, soit voler des credentials ou carrément voler là, de la crypto qui se trouverait sur ces postes infectés-là.
Ben, c'est très intéressant, un, qu'ils ont un marché très défini, mais c'est ça, en même temps, comme tu dis, ils sont hors normes au sens où ils s'attaquent qu'au milieu financier, mais clairement, tu sais, c'est vraiment la cible, puis les autres, c'est vraiment pour renflouer clairement les coffres de l'État. Là, tu dis, là, il n'y a pas d'autres manœuvres, puis c'est intéressant qu'ils n'utilisent pas l'approche des rançons logicielles, c'est-à-dire de faire du chantage pour obtenir de l'argent. Les autres, ils vont vraiment, encore là, une fois, all-in, on va aller chercher où l'argent est situé, puis tant pis pour le restant. Là. C'est vraiment puis j'ai aimé ton expérience, c'est comme YOLO, go, on y va. Là.
Ouais, c'est ça. Écoute, ils vont avec leur expertise. Ils se bardent pas de justement de faire du chantage ou des menaces et tout ça. Non, c'est on vole puis on s'en va. Et puis, ils ont quand même, par le passé, là, on les a vus être t'sais, méthodiques. Donc, ils font le plan là, d'attaque, ils vont étudier leurs victimes. Comme je disais, ils ont des bons courriels d'hameçonnage. C'est bien crédible. Ils vont jouer avec leur logiciel malveillant. Ils vont s'assurer que c'est pas trop détecté par les produits de sécurité. Puis ils vont avoir une chaîne d'attaque qui fonctionne, avec laquelle ils sont confortables. T'sais, pour te donner une idée, ils sont connus entre autres pour envoyer des mails avec un fichier LNK en pièce jointe qui va mener vers d'autres trucs. Ou bien un document qui contient un remote template. Donc, c'est un document Word qui est bénin en soi, mais qui contient un lien qui, lui, va chercher un template sur un serveur distant qui, lui, va avoir le code malveillant. Puis c'est ça qu'on a vu régulièrement derrière ce groupe-là. Puis là, parlant de YOLO, on a vu une campagne ou de l'activité de TA-444 à la fin 2022. On a sorti une analyse il y a quelques mois là, qui détaille tout ça. Là. Mais dans le fond, ils ont complètement... Ils sont comme virés capot. Là. Au lieu d'être précis, méthodique, puis avoir une chaîne d'attaque, ils ont éprouvé. Ils ont fait l'inverse. Ils se sont mis à envoyer des courriels comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis... À peu près tous les deux jours, ils changeaient. Soit ils mettaient des fichiers MSI, ils mettaient en pièce jointe des images VHD, des virtual hard drive, qui c'est comme une espèce de container vers d'autres fichiers. Puis c'était là-dedans que se trouvait le code malveillant. Des ISO pour bypasser la mark of the web, donc une espèce de marque que si un exécutable a été téléchargé, ben Windows va te donner un prompt spécial. On a vu du HTML compilé, c'était vraiment vraiment quasiment du n'importe quoi, à tel point qu'on se demandait si c'était vraiment TA-444, parce que ça clashait tellement avec ce qu'on connaissait de ce groupe-là, qui était méthodique et bien posé, si on veut. Ça ressemblait un peu à de l'improvisation, si on peut dire ça.
Mais, ouais, de ce côté-là, puis c'est la question qui suit, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un changement de garde au niveau d'eux autres? Est-ce que parce que. Puis un peu ce que tu me mentionnais, je vois, c'est qu'ils utilisent le même genre d'outillage, mais ils ont changé l'approche ou leur opération. C'est comme si les opérateurs n'étaient plus les mêmes.
Bien, t'as raison, c'est une bonne observation. En fait, une de nos hypothèses, c'est soit qu'ils ont changé le personnel. Donc, c'est les mêmes outils. C'est pour ça que nous, on lit, juste une petite parenthèse, c'est quand on dit une attaque a été lancée par un groupe X, c'est qu'on est capable de faire des rapprochements entre des éléments communs entre les deux événements. Puis ça, c'est on pourra en parler de l'attribution un petit peu plus tard, si tu veux. Mais dans le fond, c'est qu'on va traquer des éléments techniques communs, qu'on peut attribuer à ce groupe-là. Donc, dans ce cas-ci, c'était les mêmes logiciels malveillants. Donc, ça se pourrait qu'ils aient changé leur staff, mais qu'ils réutilisent les mêmes outils. Une autre hypothèse qu'on a, évidemment, on ne pourra pas le vérifier, malheureusement, mais l'autre hypothèse qu'on a, c'est que c'est le même monde qui, de jour, travaille pour leur employeur, mais qui, de soir, réutiliserait leur laptop de job pour faire des petites activités on the side. Puis que là, ils peuvent juste décider de faire leur truc, tu sais, go, 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 on fait un peu n'importe quoi, parce qu'on n'a pas besoin de se fier au cadre habituel que notre employeur nous dicte dans notre 9 à 5 nord-coréen. Fait que, on le sait pas, on le saura pas, mais c'est clairement différent, puis c'est intriguant. Quand on voit ces changements-là, ça fait une petite étincelle dans notre travail.
Ouais, ben c'est ça. L'hypothèse est très intéressante, effectivement, que des gens. Puis ça se voit régulièrement, les gens qui veulent profiter dans ces groupes-là. Il y en a toujours un moment donné qui veulent ramasser l'argent pour eux-mêmes, pour améliorer leur propre sort ou se sortir de leur situation qu'on pourrait considérer misérable. Oui. Mais c'est très intriguant dans un régime totalitaire comme cela aussi en même temps. Mais tout ça est très, très intéressant comme regard sur comment ils opérationnalisent leurs choses ou comment les choses se passent.
Puis ça a déjà été soupçonné, là, ce genre de déviation-là ou d'utiliser l'infrastructure de job pour faire un petit sideline. Là, fait que ça ne serait pas complètement inédit. Puis un autre élément qui nous pousse qui nous pousse à penser que c'est peut-être ça qui se passe, c'est les cibles de cette campagne-là que j'ai parlé, qui était vraiment du n'importe quoi. C'était aussi des cibles différentes. On a vu des gens dans le domaine de l'éducation, dans le secteur gouvernemental. Il n'y a pas d'argent à voler au gouvernement, là. Fait que le domaine de la santé aussi. Donc, c'est vraiment particulier pour ça. Ah oui, il y avait des coquilles. Il y a des typos aussi dans leur courriel. C'était pas habituel. La qualité n'était pas là. N'était pas au rendez-vous du tout.
Oui, ben c'est effectivement une belle hypothèse à vérifier. Ben que ce soit des gens qui ont fait ça sur le site qui sont probablement moins habitués ou il n'y a pas la personne qui fait la correction dans la langue dans laquelle il est envoyé n'était peut-être pas présente à ce moment-là. Ils ont improvisé quelque chose avec un peu du genre Google Translate puis vite ça slide.
Écoute, si seulement ils avaient utilisé Google Translate, ça aurait déjà été mieux. Attends qu'ils découvrent ChatGPT, ils vont te faire de quoi de pas mal mieux. Mais pour vrai, c'est ça. C'est vraiment une espèce d'outlier. Une autre anecdote sur ça, à quel point c'était différent. Je reviens sur le fait que TA-444, d'habitude, ils sont dans son posé, ils vont préparer leur courriel puis ils vont les envoyer à quelques cibles à la fois. Là, juste en l'espace de quelques semaines, la quantité totale de messages qu'on a vu passer qui visaient nos clients, juste dans ces quelques semaines-là, a plus que doublé tout ce qu'on avait vu depuis toute l'année 2022. Et tu sais, la quantité de messages était vraiment, vraiment effarante. Là. Je te dis, il y a vraiment un moment où on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un nouveau groupe d'acteurs qui se fait passer pour eux, mais qui fait... C'est-tu un false flag, finalement? Qui utiliserait des éléments communs des attaques connues de ce groupe-là pour brouiller les cartes. Là, mais finalement, on est pas mal certain que c'est juste TA-444 qui fait un peu n'importe quoi.
Ah, mais c'est drôle, ça, justement, qu'il fasse ce genre d'éléments-là. Puis ça mène à la question sur l'attribution. Comment vous êtes capable d'attribuer, parce que vous avez un spectre d'analyse qui est défini. Donc, on ne prendra pas comme dans ton ancien travail où tu avais un autre spectre de choses qui était peut-être plus facile de réattribuer en termes de courriel. Ce n'est pas exactement les mêmes indicateurs que vous utilisez pour faire l'appariement entre les techniques utilisées par un groupe puis comment celui-ci peut se rassembler, là.
T'as raison. En fait, on va quand même utiliser les logiciels malveillants comme tels, comme base assez primordiale là, quand on va attribuer quelque chose. Les Nord-Coréens utilisent beaucoup de logiciels qui leur appartiennent, qui s'est développé in-house. Puis après ça, on va regarder l'infrastructure réseau, c'est les comptes de courriel qu'eux utilisent pour envoyer leur spam. L'infrastructure, là, des fois, ils ont leur propre infrastructure, des fois, c'est de l'infrastructure compromise, on est capable de faire des liens. Dans une moindre mesure, mais c'est quand même utilisé, c'est au niveau des cibles. Le targeting, comme je disais, eux, d'habitude, là, ils s'intéressent uniquement au domaine de la finance, la fintech, la crypto. dans les groupes d'attaque ciblés, il n'y en a pas tant que ça qui cible que ça. Fait que ça, c'est un petit indicateur que ça fait ce groupe-là. Puis ce qui est cool dans mon travail, vu qu'on voit beaucoup d'emails passer, c'est que on peut vraiment voir au niveau du ciblage qui a été ciblé. On en bloque beaucoup. C'est ça qui est particulier, c'est que nous, on voit l'attaque arriver par courriel, puis on la bloque bien souvent. Fait que ça se rend même pas au endpoint où est-ce que là, c'est des collègues comme mes anciens collègues, la gang chez I7 ou les autres gens qui sont sur le endpoint, eux vont voir l'attaque arriver sur le poste de travail, mais ils envoient juste une toute petite partie parce que les filtres de courriel en amont vont en bloquer une grande partie. Fait qu'on a une super bonne visibilité sur la victimologie et sur l'infrastructure de messagerie qui est utilisée pour envoyer leur truc. Donc, c'est une perspective vraiment intéressante, vraiment différente. Je suis bien content de vivre ces temps-ci.
Oui, ben dans le fond, vous voyez, si vous basez beaucoup la signature de la structure d'envoi, qu'est-ce que c'est fait et ces éléments-là. Puis d'ailleurs, parenthèse, parce que j'ai fait beaucoup de réponses à incidents, puis un des éléments qu'on faisait généralement, c'est qu'on suggérait de bloquer le plus en amont possible. Et le plus en amont possible, c'était les courriels. Fait que quand le payload atteignait le poste, pour nous, c'était la dernière ligne de défense et c'est très dangereux parce que si la dernière ligne de défense échoue, ben là, on est foutu. Fait que si on est capable d'en arrêter le plus possible en amont, puis c'est un des éléments sur lesquels on avait mis beaucoup d'énergie pour justement repousser le plus loin possible. Mais en même temps, c'est ça, c'est toute l'efficacité de ces contrôles-là, de ce volume-là, j'imagine, qui doit justement favoriser votre analyse et votre capacité de faire de l'attribution.
Ouais. Puis là, on voit les attaquants aussi shifter un petit peu. Modifier leur approche. Au lieu de faire des emails comme directement comme première approche, on va voir, les Nord-Coréens sont pas mal forts là-dessus, c'est qu'ils vont faire une approche par d'autres moyens, comme par exemple LinkedIn. Ils vont se créer des fausses identités, évidemment, sur LinkedIn, puis ils vont se faire passer, mettons, pour un recruteur. J'ai une job pour toi. Ils vont t'approcher si tu es un ingénieur dans une compagnie de fintech. On a une job pour toi, une nouvelle compagnie. Envoie-moi ton CV. Hey, je vais t'envoyer l'offre d'emploi. Mais là, je peux pas vraiment t'envoyer ça par LinkedIn parce que blablabla. Fait que je vais t'envoyer sur ton email personnel. Je vais te mettre un lien. Dans le fond, la confiance est déjà établie. Je vais te mettre, imagine justement, un lien Dropbox vers le document malveillant. Ben, c'est pas vrai que les compagnies peuvent sandboxer ou analyser nécessairement tout ce qui vient de Dropbox. C'est comme beaucoup, on ne peut pas juste bloquer Dropbox au complet. Fait que, il y a comme une espèce d'approche préalable où est-ce que la confiance est déjà gagnée, puis après ça, il aurait juste à servir le code malveillant sur un plateau, puis la cible va le gober tout rond. Hein.
C'est une des difficultés. Puis justement, pour toutes ces affaires-là de courriel, on reçoit. Puis la pandémie nous a largement exposé à l'info numérique de façon massive. Et justement, tous ces courriels génériques-là qu'on reçoit de Dropbox, Microsoft, Google, Amazon, ensuite de trier ça, puis de démêler le bon du mauvais. Puis dans ce cas-ci, puis ce que tu mentionnes, c'est sur un vrai Dropbox en plus avec un mauvais fichier. Là, fait que c'est fou, là.
C'est vraiment fou. Puis, tu sais, les entreprises, en général, les entreprises, tu sais, c'est ceux qui sont le mieux outillés pour avoir des outils de détection puis de sécurité et tout. Puis, on voit des cas où est-ce que les attaquants vont aller après le courriel personnel de la personne, de la cible, parce que bien souvent, c'est moins protégé, si c'est pas protégé pantoute. Et de là, ils peuvent pivoter puis réussir à rentrer sur le. Disons que ça facilite la prochaine étape de rentrer sur le réseau corporatif qui lui est vraiment plus protégé. C'est difficile parce que les employeurs ont pas de visibilité. On s'entend-tu qu'on veut pas non plus qu'un employeur puisse rentrer puis scanner les courriels personnels de ses employés? Ça n'aurait pas de sens. Fait que les attaquants en profitent, si on veut, pour atteindre leur cible d'une autre façon, pour passer à côté des contrôles d'entreprise.
Ouais, d'autant plus que l'usage de Google, surtout dans un cas de recrutement, on veut pas que notre employeur le sache. Donc, c'est sûr que le setup là, est excellent au sens où il explique vraiment puis il amène vraiment les gens dans allez, viens-t'en dans ton courriel personnel là, qu'on vienne te tondre le mouton comme il faut. Là. Puis les gens vont tomber dans ce piège-là de façon là. c'est plate. Puis justement, sur les postes personnels, il n'y a pas toutes les EDR qu'on a en entreprise. Il n'y a pas le durcissement, il n'y a pas le filtrage. Mais là, c'est le filtrage de Google, mais c'est, ça vaut ce que ça vaut. T'sais, les autres ont un spectre défini d'actions qui n'est pas le même spectre qu'on va retrouver en entreprise, par exemple. Donc, les filtres ne sont pas faits de la même façon, mais pas avec le même objectif.
Les filtres ne sont pas faits de la même façon, puis la visibilité non plus. T'sais, quand tu es un admin d'entreprise, un admin responsable de la sécurité, si tu as des alertes, puis tu as une détection d'un courriel qui vient des Nord-Coréens vers un de tes employés, tu peux prendre des mesures, tu peux appeler l'employé, tu dis hey, qu'est-ce qui se passe et tout, mais si c'est filtré par un fournisseur comme Google, un Gmail gratuit, ben, il n'y a pas cette connexion-là. L'employeur ne peut pas appeler Google et dire hey, qu'est-ce qui se passe dans la boîte de mon employé. Il n'y a pas cette rétroaction-là non plus. C'est super important. Dans le fond, j'en fais personnellement des notifications à nos clients tous les jours qu'on ait bloqué ou pas le courriel malveillant. On informe quand même le client que son organisation a été prise pour cible par un groupe d'APT. C'est important de le savoir, même si l'attaque a échoué aujourd'hui. Il faut que le client sache que ce groupe-là, qui a ces motivations-là et qui opère de cette façon-là, l'a pris pour cible. T'sais, le P dans persistant, le P dans APT plutôt, c'est persistant. Hein. Il va revenir. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, il y a des bonnes chances qu'il revienne la semaine prochaine ou l'autre d'après ou le mois d'après. Il y a un mandat derrière ces attaques-là. Ils ne laissent pas tomber facilement.
Surtout des acteurs étatiques comme celui-là, le côté est persistant, effectivement. Puis, c'est ça. Puis je trouve ça très intéressant que vous fassiez cet avertissement-là parce que la plupart des services ne donnent pas justement le threat intel associé avec le blocage. Donc, on n'est pas capable comme organisation, comme SOC, de savoir si on est ciblé. Fait que c'est sûr que si on est ciblé, on va changer le regard qu'on va avoir sur les choses parce qu'on va regarder le filtrage web, on va regarder les EDR différemment, on va regarder des choses, puis tout coup, oups, on va avoir des éléments qui tout d'un coup commencent à parler sur des command and control coréens, nord-coréens. Là, on va être un peu plus à l'affût que si on n'a aucune attaque qui est en cours là aussi, là, puis c'est peut-être juste du bruit de fond. Là.
Ouais, exactement. Puis tu sais, on entend beaucoup dire le plus important, c'est d'établir ton profil de risque comme entreprise pour savoir où mettre, où investir, puis quoi regarder. Tu sais, ton profil de risque, là, moi, je trouve ça difficile à concevoir que tu peux faire ça de façon vraiment complète et ça couvre tout. Ça battra pas, tu sais, une notification concrète que j'ai vu ton organisation être ciblée par ce groupe-là. Maintenant, je pense que ton profil de risque vient d'être établi avec certitude. Tu es à risque de te faire attaquer par ce groupe-là. Puis voici pourquoi. Voici les autres cibles typiques. Toi, tu es dans le domaine de l'aéronautique, mettons. Mais nous, on a vu ce groupe-là attaquer 10 autres entreprises dans ton secteur. Pas plus tard que le mois passé. Puis voici comment ils s'y prennent. Ils partent-tu par une approche LinkedIn? Faut que tu fasses la sensibilisation à tes employés, dire en passant, en ce moment, on est ciblé. Si vous voyez des contacts sur LinkedIn, il y a des bonnes chances que ce soit ça. Voici la procédure à suivre. Contactez notre équipe de sécurité. Acceptez pas de pièces jointes, acceptez pas de fichiers. Ça passe tellement tout le temps par l'humain. Fait qu'à un moment donné, il y a comme une limite au conseil puis à l'awareness qu'on veut demander de nos employés si c'est pas précis et ciblé. Là. Et quand on a de l'information précise, ça vaut de l'or. Là.
Effectivement, de toute façon, si on me ciblait puis je ne savais pas, c'est sûr qu'ils vont réussir parce que ils vont effectivement tomber exactement dans le bon mindset exactement pour m'avoir parce qu'ils vont m'avoir étudié avant. Mm-hmm. Ils vont voir ce que je fais. Ils vont envoyer un courriel qui est pile poil sur le genre de choses que dans lesquelles je travaille normalement ou qui est crédible moindrement. Puis c'est sûr que là, mes défenses ont baissé. Puis j'ai beaucoup plus de chances de tomber dedans. Puis on est tous dans cet état-là. Même si on est des experts en cyber, sont très bons là, ces gens-là. Là.
Tout à fait. C'est l'ingénierie sociale. C'est ça qui drive les attaques. T'sais, oui, on entend des vulnérabilités à être exploitées et tout ça. Je te le dis, c'est la minorité des attaques qui réussissent, qui passent par une vulnérabilité logicielle comme vecteur primaire là, de l'attaque. La grande majorité, c'est passé. L'attaquant réussit à tromper un humain, à faire une action, prendre une action qui mène à une compromission ou un vol de données. C'est là que où tu combines, c'est rien de nouveau, ça doit faire 10 ans, je répète la même chose. Mais tu sais, comment on peut lever la barre? Pourquoi c'est si facile? Pourquoi ça marche autant, les Moses de l'attaque? Il faut continuer à former le staff. Il y a tellement de monde qui ne sont pas dans le domaine de l'informatique. Pour eux, c'est un outil. Ta voiture, là, tu sais-tu comment le moteur marche? Il y a-tu quelqu'un qui essaie de te convaincre de peser sur une séquence de Python dans ton char qui va faire que ton moteur va briquer et tu vas te faire demander une rançon? On ne demande pas ça à personne dans aucun autre domaine, sauf en informatique, à des non-experts de faire attention à ce qu'ils font avec l'outil. Fait qu'on n'a pas le choix, il faut continuer à les former puis à partager l'information. Puis combine ça avec des bons outils technologiques pour minimiser ce qui se rend à ces gens-là. Puis après ça, essayer de détecter le plus tôt possible s'il y a eu compromission. Ben, c'est ça. C'est notre réalité.
Oui, puis moi, je vais justement parce qu'il faut ramener l'humain au centre de tout ça parce que c'est l'humain qui est exploité. Puis c'est un. Moi, par rapport à ce que je vois en général, même si la sensibilisation, ça a ses limites, j'aime l'approche que vous avez. Vous êtes sous attaque. Là, on n'a pas le même regard. On apporte des éléments concrets. Puis c'est probablement ça, en général, qui manque, les éléments concrets qui nous permettent justement de rattacher. Là, les Coréens sont en train de nous attaquer. Vous allez probablement recevoir des requêtes sur LinkedIn et probablement qu'ils vont utiliser ça. Fait que là, c'est vraiment un chemin d'attaque clair. Là, les gens vont vraiment être vigilants puis vont être sensibles à ça parce qu'on est très, très précis que juste des campagnes de sensibilisation, vous allez peut-être être attaqué, vous allez peut-être se passer quelque chose comme ça. Ça, c'est un. Puis en plus, il faut que la technologie vienne servir. Puis encore là, j'aime beaucoup l'approche que vous utilisez d'avertir parce qu'on donne des signaux clairs aux clients et à terme aux utilisateurs parce qu'il faut que ça serve, cette technologie soit un aide à la décision pour que les gens ne cliquent pas, vont être moins vigilants. Puis j'ai commencé à avoir des études où ils sont en train d'évaluer, faire des études sur le moment de la journée que les URL malveillants sont cliqués. C'est-tu plus le matin? Est-ce que c'est plus le soir? C'est généralement plus le soir parce qu'on est plus fatigué, on est moins vigilant le soir. Donc, d'amener justement une compréhension de l'humain dans ce processus-là et d'utiliser la technologie pour aider l'humain et non de l'humain n'est pas bon puis qu'on s'en fout puis on fait autrement.
Exact. Allez, écoute, je suis 100% d'accord avec tout ça. On a encore du pain sur la planche en tant que spécialiste dans le domaine. Il y a beaucoup de monde qui ne demande qu'en apprendre plus. À nous à le faire de la bonne façon puis rendre ça plus difficile pour les attaquants de réussir. Au bout du compte, c'est ça. Si les attaques deviennent plus longues, plus difficiles, plus fastidieuses pour qu'elles réussissent, ça hausse le coût de réaliser une attaque. Donc, c'est ça qu'on veut au final, que ça devienne très difficile de réussir.
Pour limiter les choses, revenons au groupe en question qui a initié la conversation. Dans ce cas-ci, là, vous avez un cas spécifique. Est-ce que vous avez vu ça en parallèle des activités plus normales du groupe où ils ont vraiment juste, pendant un certain temps, dit « YOLO, nous, on y va comme ça » puis tout coup, pouf, on revient plus tard ou les deux se font encore en parallèle?
C'est une bonne question. Faudrait que je regarde dans le dernier mois l'activité, dans le moment où est-ce que ça a eu lieu, là, c'était vraiment à la toute fin de 2022, c'était la seule activité. En fait, il avait même pris une petite pause là. Ben, enfin, je dis ça, mais on a eu une période où on avait pas de visibilité sur leur activité dans nos données à nous. Donc, ça veut dire qu'ils s'attaquaient peut-être à d'autres gens, mais ils s'attaquaient pas à nos clients. Et puis là, ça c'est arrivé un peu par surprise de nulle part. Puis ça l'a terminé aussi assez rapidement. Puis, on les a pas revus faire ce genre d'espèce de campagne aberrante comme ça. Mais certaines des nouvelles chaînes d'attaque qu'ils ont mis sur pied, là, on les a vus utiliser de façon plus posée, là, plus à plus petite échelle. Donc, je pense qu'ils ont peut-être appris Greg, l'analyste qui suit dans mon équipe, qui travaille sur la Corée du Nord, il dit on peut quasiment imaginer que c'était un hackathon là, d'une semaine. Puis après ça, ils ont tiré des leçons de ça, puis ils ont dit on va intégrer ce qui a bien marché dans notre playbook régulier pour le futur.
Oui, c'est une belle façon de l'imager. C'est un peu l'idée que j'avais. Ils ont peut-être juste, on teste des affaires, nos outils commencent à atteindre leurs limites. On fait un test, on remet les tout au jeu. Puis ensuite, on voit qu'est-ce qui en sort, puis qu'est-ce qui est plus probable par la suite. Mais encore là, c'est comme, ils ne sont pas cachés zéro. C'est ça qui est drôle dans tout ça, là.
Et c'est quand même étonnant à quel point il y a beaucoup de groupes d'APT qui se cachent pas vraiment, ou enfin qui rendent pas l'attribution si difficile que ça. Il y a tellement beaucoup de groupes qu'on est capable de suivre depuis comme 10 ans passés. Là. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait de reset, de genre on tue toute notre infra, on retool, on se refait des nouveaux outils, des nouveaux logiciels malveillants from scratch. On coupe le pont finalement.
C'est très dispendieux faire ça. Là. Fait que, faut vraiment avoir des éléments particuliers. T'sais, on en avait parlé pour ce qui était se passé en Ukraine, entre autres. Puis justement, ben, il y a eu une attaque sophistiquée qui a amené à rien, une attaque non sophistiquée qui a amené à un succès. Donc à ce moment-là, c'est peut-être ce genre d'interrogation-là. Puis j'imagine qu'ils doivent s'observer entre eux autres. Donc, ils doivent apprendre des autres groupes. Mais c'est cette capacité, je pense, à agir impunément. C'est probablement là la source de toute leur façon, surtout encore en Corée du Nord, où ils s'en foutent littéralement de ce qu'ils font, puis parce qu'ils ne seront jamais achalés par personne, d'aucune façon. Surtout dans un pays qui a déjà des sanctions économiques très, 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 très importantes. Ça ne peut pas être pire que qu'est-ce que c'est là. Donc, dans ce cas-là, il ne se passera rien, là, rien de plus que qu'est-ce qu'ils vivent. Là.
Ah ben t'as raison. En fait, le ça a ça de particulier, les attaques lancées par des pays, c'est que tu peux pas envoyer la police normale après ce monde-là. Je veux dire, c'est pas des bandits recherchés, c'est des employés de l'État. Fait que ça se gère d'une façon différente, t'sais, politique. Tu sais, quand le département de la justice américain a sorti ce qu'il appelle un indictment, là, dans le fond, on peut appeler ça une accusation ou un acte de où est-ce qu'ils identifient des gens qui sont suspectés de faire partie d'un groupe qui a lancé des cyberattaques. On s'entend qu'ils n'iront pas les chercher là-bas. C'est plus pour envoyer un message. On sait qui vous êtes. Sacrez-nous une petite patience, là. Vous poussez, mais poussez égal. Fallait aussi donc que tout d'un coup que ces gens-là décideraient de voyager avec leur vrai nom, avec leur vrai papier. Ben là, ils vont se faire ramasser. Ça se fait aussi pour des criminels, des cybercriminels, disons, autonomes qui ne sont pas commandités par des États. Il y a des pays où s'il n'y a pas de traité d'extradition, par exemple, la Russie, il y a quand même une valeur à mettre en accusation un Russe, même si tu sais que tu ne peux pas l'extrader, parce que tu sais que s'il quitte le pays puis il rentre dans un pays ami avec son vrai passeport, il se fait ramasser à la frontière. Fait qu'il y a quand même certaines choses qu'on peut faire, là, mais dans le cas de la Corée du Nord, je pense que les voyages sont assez limités comme ça pour leur population. Puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment des agissements en toute impunité. C'est assez particulier.
Fait qu'on va continuer à les voir. Est-ce qu'il y a d'autres éléments là-dessus qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder, ou on a tout couvert?
Écoute, on a couvert l'essentiel, je pense, une chose que je peux te promettre, là, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler des autres. Si ça se trouve, d'ici la fin de l'année, on va avoir du nouveau, puis je pourrais venir vous faire un petit bilan là, de ce que c'est pas juste TA-444, il y a d'autres groupes en Nord-Coréen, il y en a plusieurs. On est dans un... En ce moment, là, je t'ai dit, ma semaine, là, c'était travailler, d'essayer de mettre de l'ordre dans l'attribution entre les groupes nord-coréen, et s'il y a un moment où ça a été flou, c'est bien là. Il y a du recoupage, il y a des outils partagés, il y a du code partagé. C'est vraiment un cluster F, comme on dit. Donc, c'est sûr qu'on va continuer d'entendre parler. Les Nord-Coréens sont une des régions les plus actives qu'on suit avec grand intérêt.
Merci beaucoup. Ça a été très plaisant, très instructif. J'ai très hâte de voir la suite. Malheureusement, il va y avoir une suite.
Oui, malheureusement.
J'ai très hâte aussi de la voir, parce que il reste vraiment qu'il y a beaucoup de curiosité. Merci beaucoup.
Avec plaisir.